culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau temps de culte. Bonjour aussi à nos chroniqueuses du jour, bonjour Romina.
Bonjour.
Bonjour Juliana.
Bonjour.
Et bonjour Marina.
Bonjour.
Le thème d'aujourd'hui est inspiré d'une prédication que j'avais entendue il y a des années à l'église de Collonges-sous-Salève et qui avait été faite par toi, Marina, justement. Elle m'avait marquée et je t'ai donc suggéré de construire notre programme d'aujourd'hui sur ce thème. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi nous allons parler en quelques mots ?
Volontiers. Eh bien, nous allons parler de sel. La Bible dit que nous sommes du sel, alors nous allons réfléchir ensemble à ce que ça veut dire.
Nous sommes du sel. Bon, ça mérite réflexion, effectivement. Eh bien, sans plus attendre, c'est parti. Je prie que ce temps soit un temps guidé par le Saint-Esprit, que nous puissions, à travers ce partage, grandir dans notre connaissance de Dieu, dans notre connaissance de nous-mêmes, et vivre un temps fort avec Dieu. Voilà, pour commencer, Marina, tu vas nous parler d'un moment que tu vis avec Dieu dans ta semaine et tu nous as rien dit pendant la préparation de ce culte. Tu voulais nous garder la surprise.
Alors j'ai vraiment hâte de vous parler de quelque chose de vraiment super sympa que je vis tous les jours depuis presque 2-3 semaines. Un concept tellement génial et qui va évidemment, j'en suis sûre, vous plaire, notamment dans les jours d'hiver qui approchent. Vous trépignez d'impatience,
mais oui,
non ?
Mais oui,
la droite, là.
Dis-nous tout.
Alors, je vous présente quelques produits. On a ici une infusion.
D'accord.
Vous avez ici un coffret, c'est quelque chose de très spécial, prier sans cesse.
Oh, c'est menthe poivrée, coffret de 30 sachets. Ah, c'est de la tisane.
Ah bah attendez, j'ai pas tout fini. Et puis le tout dernier, ça fait un peu de bruit, que vous avez ici.
Continue.
Alors, à l'origine, trois filles, Aude, Anne et Mélodie. Elles ont créé une entreprise en 2018 qui porte un slogan très intéressant que vous trouvez ici. Quand l'heure du thé devient... un temps pour prier.
Oh.
Et ouais. Alors, ils ont créé T-Notes. C'est le nom de leur entreprise, hein, du coup, que vous retrouvez sur l'ensemble de ces produits. Très, très intéressant. Je vous laisse peut-être passer. Mm-hmm. Vas-y.
Super intéressant, l'idée.
Donc, vous les retrouvez sur Facebook, sur Instagram, mais surtout sur leur site internet www.tnotes.fr. Alors, T-Notes propose une vente en ligne de thé, d'infusion, respectueux de l'environnement et le tout, surtout, accompagné de versets bibliques. Alors, j'ai commencé par cette formule ici que vous avez dans le pochon, qui s'appelle « Être centré sur l'essentiel ». Le petit slogan, comme on l'a vu, est bien indiqué dessus. Et vous avez à l'intérieur des sachets de thé vert au jasmin. Alors, je n'ai pas attendu les filles de prendre mon petit thé au jasmin.
Oh là là, donc, moi je veux. Donc, il y a le verset sur l'étiquette, en fait.
Ouais, vous avez chaque journée qui est inscrite ici. Nous sommes ici au jour 26. Mmh. Et il y a le texte biblique qui nous est proposé, psaume 27, verset 1. Et puis, juste à l'arrière de l'étiquette, il y a le texte biblique que je vais vous lire. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? » Hyper intéressant, non ?
Ouais, vraiment.
Vous connaissiez ce...
J'avais déjà entendu parler, mais pour les couples, je ne savais pas que ça se faisait de manière générale comme ça. C'est super, je trouve.
Ah ouais, très intéressant. Donc, un sachet par jour, pour un mois, si vous le voulez bien, sur lequel, du coup, sont accrochés ces versets bibliques, version second, s'il vous plaît, sur le thème que j'avais choisi, qui était être centré sur l'essentiel. Ça m'a permis... en tout cas, de faire une pause qui ait du sens dans ma journée depuis quelques semaines, dans mes journées de travail assez longues. Et donc, tous les jours, durant ma pause qui était avant ma pause café, j'ai décidé de boire le thé de T-Notes. Je prends le temps de la dégustation, très très bon thé, et je lis le texte biblique qui est accroché. Je prends le temps de réfléchir sur le sens de ce que ce verset peut avoir pour ma vie et puis sur ce qu'il peut avoir comme effet concret pour ma journée. Très bon support. Il existe donc, comme je vous ai dit, d'autres supports comme celui-ci. Priez sans cesse. Alors là, c'est exactement la même chose. Hein. Coffret 30 jours. Voilà, sur le thème de la prière.
Puis tu peux même l'embarquer. Enfin, je suis en train de réfléchir à ma salle des profs où on s'arrête pour notre pause café ou thé. Là, tu peux très bien l'amener et puis tu imposes rien. Mais si une personne voit et puis qui se pose des questions, c'est...
Exactement, ça peut être interpellant. Mm-hmm. Hein. C'est un très très bon outil. Ça permet justement peut-être un cheminement, comme tu le dis, avec des collègues de travail, avec des amis, sur un temps de goûter, voilà, ou à vivre avec une personne qui ne connaît pas Jésus. Mmh. Un temps convivial autour d'un bon thé, on aime bien ça, de tisane pour celles qui sont moins thé. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. Et moi, je remercie Anne, je remercie Aude et Mélodie qui ont créé justement T-Notes, qui est un moyen pour moi aujourd'hui de vivre la parole de Dieu autrement. Et puis dès demain, en tout cas très prochainement, de pouvoir le partager avec les gens qui m'entourent.
Oh, c'est trop chouette, ouais, merci.
C'est une bonne suggestion.
Top, merci. Ça m'a mis de bonne humeur, écoute, ce début de service de culte. Et j'ai envie de continuer dans cette bonne humeur. J'avais envie de commencer par un chant qui, je trouve, représente bien ce qui se passe à l'intérieur de certains et certaines d'entre nous quand on commence à louer. Parfois, malgré les circonstances de la vie, quand je commence à louer, tout d'un coup, je ressens une joie. Et j'aimerais te partager ce soleil que je ressens à l'intérieur en espérant que celui-ci te réchauffe un peu comme tes tisanes aussi, Marina, et que tu puisses le partager à ton tour.
Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut. Devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire.
Amen. Pourquoi est-ce qu'on loue Dieu? Bah, notamment parce que c'est si bon de le louer. J'ai mille raisons de louer Dieu. Alors, petit exercice, les filles. Je vous invite à dire « Je te loue Dieu car tu es » et mettre les adjectifs de ton choix. Je commence. « Je te loue Dieu car tu es étonnant. Tu es le Dieu de l'espérance et tu es fidèle. »
Je te loue Dieu car tu es toujours le même. Quand d'un jour à l'autre tout peut changer, toi tu ne changes pas, ton amour pour moi ne change pas.
Je te loue Dieu car tu es mon conseiller. Quand j'hésite sur la voie à suivre, je me tourne vers toi et tu me conduis dans des chemins qui sont sûrs, tu sécurises mes pas.
Je te loue car tu es mon créateur. Tu tiens le monde entre tes mains et tes œuvres sont merveilleuses, magnifiques.
Amen. Mmh. Et bah écoutons, c'est si bon, interprété par l'Église Sans Frontières et Maggie Blanchard. Et je t'invite, chers auditeurs, chères auditrices, pendant les moments sans parole du chant, à toi aussi dire à Dieu pourquoi tu le loues.
Mmh. Goûtons-le parfaitement et complètement. C'est si bon de le louer. C'est pas vrai?
Chanter des louanges, voilà.
Amen. Bah, d'où me vient ce beau soleil? D'où me vient cette joie malgré les difficultés de la vie? Bah, personnellement, c'est de cette relation avec Dieu, Dieu en moi. D'ailleurs, les chrétiens disent souvent Dieu ou Jésus en moi et ça peut paraître un peu abstrait. Et voilà un chant qui nous aide, qui nous donne quelques pistes sur ce que cela peut bien vouloir dire. Je ne possède.
C'est une rivière et l'eau s'y promène, baignée de lumière, toujours nouvelle. La vie s'écoule en moi. Je voudrais sauver ce flot de passage, garder pour demain, poser des barrages. Mais l'eau s'enfuit entre mes doigts. Coule à travers moi. Je ne possède rien. Coule à travers moi. Je ne possède rien, mais j'ai tout en toi. Ce sont des semences, ce sont des promesses, ce que je détiens, toute ma richesse. La vie entre mes mains. La graine gardée deviendra stérile, mais abandonnée à la terre habile. La vie continuera demain. Sème à travers moi. Je ne possède pas. Sème à travers moi. Je ne possède rien, mais j'ai tout en toi.
J'ai entendu un témoignage que j'ai vraiment trouvé super et je voulais partager avec vous. C'est l'histoire de Andressa, c'est une jeune fille de 13 ans. Alors Andressa, elle est née au Brésil, dans un petit village pauvre. Et malgré son âge, elle avait déjà un emploi du temps super chargé. Mais tout simplement parce qu'elle avait décidé de consacrer beaucoup de temps pour partager l'amour de Dieu autour d'elle et l'espoir aussi. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle faisait pendant ces heures, ces journées? Tenez-vous bien, parce que c'est pas mal. Toutes les semaines, elle animait un programme à la radio. Donc, elle partageait des mots d'espoir, des histoires pour les enfants. Puis, elle visitait aussi les personnes âgées de la maison de retraite. Donc, elle chantait avec eux. Ils faisaient des jeux, ils priaient ensemble. Et elle prenait vraiment le temps d'écouter leurs souffrances, leurs histoires, parce que vous savez qu'ils aiment bien parler, raconter un peu ce qu'ils ont vécu. Tous les mercredis aussi, en fait, elle recevait des gens, des familles pauvres chez elle. Elle mettait à disposition du matériel. Et donc, ils faisaient de l'artisanat. Puis il vendait pour pouvoir avoir de l'argent pour vivre, en fait, tout simplement. Et encore, ce n'est pas fini. Elle organisait aussi chez elle un petit groupe d'études de la Bible pour les enfants de son quartier. Alors ce petit groupe a commencé petit et puis il est devenu grand. Beaucoup de succès à tel point que le salon ne pouvait plus, n'était plus assez grand pour accueillir tout le monde. Donc ils ont décidé de se partager en plusieurs petits groupes. Donc ça a fait qu'il y a d'autres enfants encore qui ont pu venir. Et d'autres enfants aussi qui sont devenus leaders et animateurs dans le petit groupe.
C'est incroyable, elle avait une formation, comment ça lui est venu ces idées?
Bah en fait, elle n'avait pas de formation, je vous rappelle qu'elle avait 13 ans. Ouais, 13 ans quoi. C'est juste une petite fille, une jeune fille, bon, pas petite mais une jeune fille quoi, qui aimait son Dieu. Et en fait, elle voulait faire de son mieux avec ce qu'elle savait, tout simplement. D'ailleurs, elle a dit, je la cite, « Je suis un enfant normal, je joue, j'étudie. » Mais Jésus nous a donné 24 heures. Il nous faut faire notre part maintenant, car peut-être que plus tard, ce ne sera plus possible. Mmh. Et malheureusement, Andressa a perdu sa vie dans un accident automobile et est décédée à seulement 14 ans. Donc un an après avoir commencé tout ce travail. Mmh. Donc elle a vécu peu de temps, malheureusement. Mais elle a fait beaucoup, elle a touché des centaines de personnes entre les auditeurs de la radio. Les enfants qui ont connu Jésus grâce à son initiative, les familles pauvres et qui ont pu récolter de l'argent et puis les personnes âgées. Bref, c'est énorme.
Ouais, ouais. C'est à la fois tragique et inspirant. Ouais. Elle n'avait que 13 ans et pourtant elle était déjà si engagée à faire du bien autour d'elle. C'est un vrai témoignage de foi en action. Elle était vraiment une lumière dans son quartier.
Alors, c'est clair que perso, moi, ça m'invite à sortir de chez moi, en fait. À aller rencontrer le monde, à aller rencontrer les gens qui sont autour de moi, tout simplement. Et puis, je me dis, enfin, Dieu nous a donné la vie. Enfin, je suis vivante aujourd'hui, je suis en vie. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais avec mon temps? Qu'est-ce que je fais avec cette vie que Dieu me donne?
C'est vrai que... Moi, j'ai souvent trouvé des excuses pendant de longues années pour ne pas oser aller approcher les gens. C'est vrai qu'on peut toujours se dire « ouais, je suis pas assez calée, si on pose des questions, je sais pas répondre, comment est-ce que je vais être ?» Ou t'imagines le regard des autres, si on me critique, si ça se passe pas bien, ça va être difficile, quoi. Hein. Et puis finalement, on voit que dans cette histoire, une jeune fille, quoi, une jeune fille est capable de faire les choses pour lesquelles moi je me dis « non ». Je trouve plein d'excuses, quoi.
J'ai pas le temps. Hein.
Et puis ça montre aussi que quand Dieu nous appelle, il nous rend capable de faire les choses.
Tout à fait, Marina. Alors, d'ailleurs, ce moment de partage biblique, nous allons nous intéresser à un verset qui se trouve dans Matthieu 5, verset 13. « Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel perd sa saveur, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. »
Ah, je crois que c'est là hein, la question pour la suite de ce témoignage que tu nous as donné. Romina, quelle est la raison de notre présence ici dans le monde? Quelle est notre mission en tant que chrétien? Et puis, je vous invite justement à explorer ensemble quelques pistes. Dans ce texte que tu viens de nous lire, Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre ». Ici, il s'adresse aux disciples, on le découvre au début du chapitre. Hein. En tant que chrétien, ça me concerne aussi. Vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là?
Ce qui est intéressant d'abord, c'est qu'il dit « vous êtes » et pas « vous devriez » ou « vous allez être ». Non, Jésus a de l'ambition. Il parle de notre identité. « Vous êtes le sel de la terre ». Moi qui peut-être me demande qui je suis, qui me pense insignifiante, bah Jésus, en Jésus, je suis du sel et j'ai de la saveur. Voilà l'essence du chrétien.
Et qu'est-ce que ça change finalement concrètement dans ma vie?
Ça m'invite à aller à la rencontre de cette identité que j'ai en Jésus. En quoi je suis du sel? Ça me donne un but, apporter de la saveur. Mais à quel plat? Quand? Comment? J'ai une œuvre, une mission pour ce monde. C'est déroutant et incroyable à la fois. D'après Jésus, ma manière d'être, d'agir dans ce monde donne ou pas à la terre de la saveur. Mais avant de découvrir notre mission, parlons un peu de sel.
Oui, alors à quoi sert-il le sel? On sait qu'il y avait à l'époque des routes de sel, des routes maritimes, terrestres, fluviales. le sel était taxé, il y avait des contrebandes de sel aussi, on connaissait la valeur hein, de ce sel. On sait qu'il conserve les aliments, il nettoie, il purifie, on sait dans la Bible d'ailleurs on en parle, hein, qu'on purifiait les nouveau-nés avec du sel, en les frottant avec du sel. Et puis enfin, l'usage le plus connu en tout cas, c'est qu'il donne du goût, de la saveur dans nos plats, en cuisine. Hein. Il sert à saisonner, à relever les aliments. Le sel met en valeur les aliments auxquels il se mélange. Il fait ressortir toute leur valeur, leur goût, leur beauté, leur potentiel finalement. Et je pense à celles et ceux qui suivent des régimes sans sel. C'est regrettable, hein, ça doit être vraiment difficile parce que tout devient fade. On sent hein, l'apport du sel dans un plat qu'on peut penser pas terrible et puis finalement, tac, un peu de sel et bim, les saveurs arrivent, les goûts se juxtaposent comme ça, ça fait un bien fou sur le palais, c'est vraiment délicieux.
Oui, mais attention, trop de sel, c'est pas bon non plus.
Ah,
c'est clair. Le sel doit être justement dosé dans la nourriture pour avoir un impact. Mm-hmm. Trop peu sert à rien et on ne voit pas la différence, mais le trop de sel rend la nourriture immangeable. Aucun intérêt donc. Hein. Ouais. Pour avoir le bon effet, le sel doit être non pas en tas compact, mais intégré de manière équilibrée. On ne le voit plus, presque on ne devinerait pas qu'il est là, mais on sent la différence à chaque bouchée. On voit l'avant, l'après. Mmh. Ainsi donc, le sel bien dosé peut agir sans éclat, mais en profondeur. C'est ça finalement, être sel de la terre.
Et si on le transpose à notre texte, on pourrait dire que nous sommes appelés à vivre sur terre, à nous mêler à la vie des autres, à notre entourage, à notre monde, sans s'imposer de manière compacte, mais simplement à notre place, en relevant les saveurs qui doivent être mises en évidence autour de nous. Je suis sel, non pas quand je vais prendre la place, mais quand, inspiré par l'esprit, je vais aider à faire ressortir de ceux qui m'entourent ce qui est bon. Révéler l'identité cachée de chacun, parce que chacun peut être sel en Jésus. Hein. Le monde dans lequel nous sommes est en recherche de sens, on le voit aussi aujourd'hui dans ces périodes difficiles hein, de Covid. Il y a une recherche de sécurité, de tout ce que la société propose aujourd'hui n'apporte pas vraiment de réponse satisfaisante hein, aux besoins profonds d'un être humain. Et on le voit donc dans ces périodes-là, les gens ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'amour, de soutien, puis encore une fois de sens.
C'est juste, et pourtant nous chrétiens, on s'est parfois repliés sur nous-mêmes, pour de multiples raisons étranges, puisque Jésus a fait tout le contraire, puisqu'il a passé sa vie à se mêler aux foules. Celle de la terre, on en parle beaucoup, on en débat, on argumente, mais on a souvent oublié de le vivre. Le chrétien a-t-il oublié d'être pertinent ?
Je crois que c'est le cas. Hein. Concrètement, être sel de la terre, c'est plutôt d'une attitude de vie dont on parle, en fait. Et on a des fois du mal à vivre ce sel de manière équilibrée. Parfois aussi, nous avons été des chrétiens trop attachés au grain de sel, nous mêlant de la vie des autres. Puis là, c'est très différent, hein, la nuance entre se mêler à la vie des gens plutôt que se mêler de la vie des gens. Et on s'est parfois trop souvent mêlé de la vie des autres en répandant du jugement, de la critique, de la condamnation sur les gens qui nous entouraient. Peut-être sous le prétexte d'une connaissance hein, qu'on pouvait avoir ou qu'on pensait avoir. Et puis ça donnait comme une incohérence de vie de chrétien. Ce que je dis, ce que je fais, comment j'agis, la valeur que je dis défendre. Et puis finalement, comment je m'y prends. Et c'est vrai que ça a parfois détourné le regard... des gens, de Jésus finalement. Donc tu l'as dit, c'est vrai que le sel ne se distribue pas n'importe comment. Alors je propose qu'on arrête des fois de bombarder les gens avec nos versets bibliques, déclamés à des mauvais moments, à des conseils qui ne sont pas toujours adéquats, notre morale, notre jugement sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ne font pas. Je ne suis pas sûre que ce genre de sel fasse le travail attendu, et puis ne correspond pas finalement aux propos que Jésus a portés durant toute sa vie, quoi.
C'est ce que Marina vient de dire, te parle, te rappelle des moments pénibles vécus à l'église ou en famille. Si tu as reçu des paroles de jugement, si en tant que chrétien nous n'avons pas su te valoriser ou te soutenir ou t'aimer, j'aimerais te demander pardon. Pardon pour le tort qu'on t'a fait, pardon de t'avoir, par notre attitude ou nos paroles, donné l'image d'un Dieu conditionnel qui attendait de toi une perfection inaccessible. Pardon de t'avoir fait douter de ta valeur, pardon de t'avoir éloigné de l'église et de Dieu.
Et la suite du texte dit « Mais quand le sel perd sa saveur. Comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien, on le jette dehors, les gens marchent dessus. Waouh, on se rend compte que le sel peut perdre sa saveur avec peut-être le temps, les événements de la vie. Lorsqu'un disciple, un chrétien engagé, ne remplit plus sa mission finalement, il n'est donc pas utile pour le monde. Il a quelque part failli à son appel, il apporte plus de saveur autour de lui. Alors il a peut-être porté du fruit auparavant, mais il s'est perdu en chemin, son sel a perdu son goût. Et ça peut nous arriver parce que petit à petit, on a délaissé Dieu, parce qu'une épreuve est survenue et qu'on a perdu notre confiance en Dieu, parce qu'on n'ose pas nous positionner, c'est difficile. Peut-être parce que servir Dieu, c'est s'exposer et potentiellement parfois souffrir. Parce que se ranger à la majorité est plus confortable ou parce que s'engager pour Dieu, c'est lui obéir et parfois renoncer à ce que moi j'avais prévu pour ma vie. Parce que finalement, les compromis sont devenus une règle de vie. Parce que ça fait peur d'être différent. Enfin, il y a différentes raisons. Hein. Alors, on peut se sentir inutile. Inutile pour Dieu. Et du coup, on s'éloigne un peu plus de lui. Et oui, nous pouvons perdre notre saveur. Oublier que nous avons cette mission de sel de la terre. Et ici, le texte nous dit qu'à ce moment-là, nous ne servons plus à rien.
C'est dur comme réflexion. Violente réalité, hein, si tu la prends comme ça de plein fouet. Comment tu te sens? Comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que je me sens sel? Est-ce que j'ai de la saveur que je partage, qui fait grâce à Dieu la différence dans mon quotidien? Est-ce que je relève la vie, les valeurs que Jésus incarne autour de moi? Ou bien, oh, mon sel en ce moment, tu vois, bon, faudrait doubler la dose. C'est en moi et la saveur, puis oh, pas top top. Je suis pas trop sûre de faire la différence après tout. Mais parfois, on ne se sent pas à la hauteur, hein. on se croit pas capable devant ce mandat qui paraît difficile. Comment retrouver ce sel, cette saveur qui animait ma vie de chrétienne d'autrefois? Et c'est peut-être un retour en arrière à faire, un retour vers Dieu, pour retrouver la saveur que nous avons perdue. Marcher avec Dieu, être sel de la terre, c'est quoi finalement? On veut bien, mais on fait comment? Tout est là, faut-il faire? Faut-il être? Et Jésus, dans ce texte, parle non du faire, mais de l'être. Être du sel, être sel du monde. C'est une attitude, un style de vie au quotidien. Je crois que cette notion d'être est fondamentale.
Oui, être sel de la terre. Bah, c'est vivre quoi? C'est d'abord ce retour vers Dieu dont tu viens de parler, Amandine. Je suis sel parce que je passe du temps avec Dieu, mon Créateur. Et plus je passe du temps avec lui, en lisant ma Bible, en priant, en ayant une relation, plus j'apprends à le connaître, à savoir quelle est sa volonté, et plus je vais lui ressembler. 1 Jean 2, verset 5 nous dit « Mais celui qui garde sa parole, donc la parole de Dieu, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Je suis sel parce qu'il m'inspire, parce qu'il me guide, parce qu'il me remplit. Et ainsi, je suis sel non par ma force, mais par sa force. » Et la parole dit encore, on a un texte dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, grâce au Saint-Esprit, je peux être sel. Par exemple, en valorisant les personnes qui sont autour de moi, en encourageant, en soutenant, en apportant ma contribution aux causes qui, pour un chrétien, sont importantes. Le chrétien est appelé à être un individu engagé. Il peut prendre position pour se lever contre les injustices, pour protéger le faible, etc. Et le monde qui nous entoure a besoin. A besoin d'entendre ça. Le monde a des besoins. Il y a des vies qui sont brisées, il y a des déceptions, des attentes. Ces gens sont autour de nous, hein. Et ils sont en recherche. Notre foyer, notre travail, aujourd'hui notre école, nos églises, notre voisinage sont pleins d'hommes, de femmes que Dieu veut soutenir, guérir, restaurer. Et Dieu veut que nous ayons un impact sur les nations. Voilà pourquoi il nous missionne pour la terre. Celle de la terre, c'est toi, c'est moi.
Je suis en train de déménager et j'aimerais que mes voisins me disent avant que je parte « Oh, c'est dommage que tu partes. T'as su amener quelque chose de positif parmi les voisins. Voilà de la solidarité. J'aimerais quand j'arrive sur un nouveau travail qu'on me dise au bout de quelques temps « Ah, merci, depuis que t'es arrivé, bah, y a une atmosphère de paix, il y a moins de critiques, il y a plus de soutien entre nous, on apprend à se valoriser, c'est cool, ça fait du bien. » Nous sommes le sel de la terre, au travail, à l'épicerie, parmi les amis, comme tu disais, Marina. Je demande tous les jours à Dieu qu'il m'aide à avoir une attitude de vie basée sur l'amour, le soutien, l'encouragement, l'écoute, la valorisation de l'autre, pour permettre aux autres de trouver le chemin vers Jésus.
Ouais, très juste. Ça, c'est faire une différence concrète, hein, dans le quotidien. Au travers de ta vie, au travers de ma vie, de mon témoignage, de mon attitude, de mon style de vie, alors les gens verront quelque chose de positivement différent en nous. Pas besoin de chercher très loin, hein, l'appel de Dieu t'attend ici, là où sont posés tes pieds. Voilà. Alors allons vers nos contemporains, parlons-leur de la vie, cette saveur de la vie avec Dieu, du changement qu'il a opéré en nous, et mieux que de faire, soyons.
Oui, Dieu t'aime, Dieu t'a créé pour que tu vives heureux, heureuse, et il a fait de toi le sel, un sel qui peut faire la différence dans ta vie et celle des autres. J'ai personnellement envie de me rapprocher de ce Dieu qui propose une vie qui a du sens, qui a de la saveur, qui m'engage et me stimule, qui m'équipe aussi, hein, et m'inspire pour être une bénédiction pour les autres. J'ai envie de lui dire, je me sens pas capable, dans un sens ça me fait peur, ou ça me fatigue, ou ça me semble inatteignable, mais en toi, je peux. Seigneur, je veux vivre cette vie avec toi. Aide-moi, apprends-moi à être sel, à mettre en valeur ce qui est bon dans mon entourage et sur cette terre, à redonner sens, à faire ressortir les saveurs de la vie, à apporter des réponses pertinentes à ce monde en quête de sens. Aide-moi à faire la différence, non pas pour que les gens me regardent moi, mais pour que leurs yeux se tournent vers toi.
C'est le sel que nous sommes agit dans la société. Il va donner envie d'y goûter aussi. Il y a quelque chose chez toi, je ne sais pas le définir, mais ça m'interpelle, ça me donne envie de connaître ce que tu as à partager. Et le texte de Colossiens, chapitre 4, verset 6, nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que Dieu nous inspire à être des chrétiens pleins de saveur.
Merci beaucoup les filles pour ce message tellement essentiel pour notre vie de chrétien. Alors la promesse du jour se trouve dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus aime utiliser des métaphores pour qu'on comprenne mieux les choses. Être le sel, porter du fruit, finalement, ça nous ramène à la même idée, donner du goût, révéler les bonnes saveurs dans notre quotidien sur cette terre. Comme tu le disais, Amandine, parfois ça nous paraît impossible, parfois ça nous fait peur même. Mais il ne faut surtout pas oublier que c'est Jésus lui-même qui nous a choisis pour porter du fruit. Et c'est donc lui qui nous rendra capables de le faire chaque jour si nous lui demandons son aide.
Cœur du monde que je marche, que je vis. De ce même cœur où j'étais, Dieu m'a pris. Je me souviens de ce jour où il m'a sauvé. Je voulais alors le crier haut. Entier au cœur du monde, au cœur du monde. Je ne sais à quel moment je me suis endormi. À quel moment mon amour s'est refroidi? Il y a trop de temps que l'on peut perdre pour soi-même.
faire ceux qui se perdent vers le cœur du monde. Au cœur du monde. Il m'a dit qu'il avait seulement commencé de faire que ma vie servirait.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'on trouve Dieu partout, et notamment dans différents arts. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film. Est-ce que vous avez toutes vu Bruce Tout-Puissant ?
Oui, et moi en anglais. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps d'ailleurs.
Moi non plus, ça fait pas si longtemps que ça.
Moi je l'ai vu et ça fait bien réfléchir quand même.
Ouais. Eh bien, je vais vous parler du film Evan Tout-Puissant, qui est sorti ensuite, et qui je pense est beaucoup moins connu. C'est en fait l'histoire du personnage biblique de Noé, transposé dans notre monde moderne. Pour rappel, il est dit dans la Bible que Noé vivait à une époque où la terre était pleine de violence et que les hommes ne pensaient qu'à faire le mal.
Bon, les choses n'ont pas beaucoup changé depuis quand même.
Oui, malheureusement. La Bible nous dit que Dieu regrettait alors d'avoir fait l'homme et décida d'envoyer un déluge pour arrêter le mal. Heureusement, Noé avait continué à marcher avec Dieu au milieu de ces hommes mauvais. Et Dieu décida de le sauver, lui et sa famille, ainsi que les animaux. Mais il voulait aussi le faire participer activement à ce sauvetage. Je vous invite à écouter un extrait de la bande-annonce, le moment où Dieu apparaît à Evan, le Noé de notre film, pour lui parler de la mission très spéciale qu'il lui donne.
Mais Dieu seul sait pourquoi il a choisi Evan. Ah
ah Lâche-toi, fils, c'est le début de la sagesse.
Qui êtes-vous ?
Dieu le Père.
Ah, c'est ça.
Et j'attends de toi, Evan Baxter, que tu bâtisses une arche.
Ça fait pas partie de mes projets d'avenir !
Ah ! Non, 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 non ! Ah !
C'est important que je fasse bonne impression au travail.
Messieurs, heureux de vous voir.
Ah ! Evan, tu ressembles à un mendiant dimanché. Oh. T'as l'intention de partir en tournée avec les Bee Gees ?
Ah ! Il faut vous raser.
C'est ce que je fais, seulement ça sert à rien, ça repousse dans la foulée.
Oh ! C'est ce qui arrive quand on se rase, forcément. Alors on remet ça.
Rassure-toi, le ciel t'aidera.
Ah !
Et si les gens te posent des questions, dis-leur que le déluge est proche.
Dieu ne parlait peut-être pas d'un vrai déluge. Peut-être qu'il faisait allusion à un déluge de bonne conscience.
Si tu as raison, je te dis pas comment je vais être Furax.
En fait, quand Dieu nous appelle à être sel de la terre, il nous appelle souvent, comme Evan ou Noé, d'une façon bien différente que celle qu'on avait imaginée ou planifiée. Comme on le disait, il nous appelle à être différents, donner de la saveur à ce monde. Et pour ce faire, il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Il faut qu'on sorte de nos plans bien établis. Et ça demande plus de courage et surtout plus de foi. Est-ce que ça vous parle, ça, les filles ?
Complètement. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je peux vous raconter une expérience qui me fait toujours sourire à chaque fois que j'y pense. J'avais 17 ans. Et à l'époque, je m'étais rendu compte que je refusais souvent les engagements. Les gens me demandaient des choses et je refusais tout simplement sans forcément trop réfléchir. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur, quoi. J'avais peur de ne pas savoir faire parfaitement ce qu'on me demandait. Je sais pas si vous comprenez, mais... Et en prenant conscience de ça, j'ai prié. Et j'ai dit à Dieu que je ne voulais plus refuser de m'engager.
Ouh là là.
Non. Et que je voulais me mettre à son service. Alors, voilà, je voulais arrêter les excuses pourries, quoi. Et voilà, j'étais sûre de ce que je disais, parce que je le voulais vraiment. Mais j'avais quand même un peu peur. Et je me suis dit, maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Et, mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Un jour plus tard, ma tante m'appelle et me dit... Romina, je voudrais faire une prédication avec toi à deux voix. Est-ce que tu acceptes ? Oh là là, bon, je n'imaginais pas aller devant pour prêcher. C'était quelque chose qui ne me passait pas du tout par la tête. Et en plus, voilà, je me suis dit, j'ai donné ma parole à Dieu, maintenant il faut y aller. Donc avec énormément de peur, j'ai quand même accepté. Et oui, c'est vrai, comme tu disais, je suis carrément sortie de ma zone de confort. Mais Dieu m'a surpris, car cette prédication était la première de beaucoup d'autres. J'ai découvert une passion qui était celle de partager avec Dieu ce qui me touche, ce qu'il met dans mon cœur. Et je pense sincèrement que ce n'était pas un hasard que ma tante m'a demandé à ce moment-là de ma vie. Je pense que quand nous avons vraiment envie d'être celles de la terre, et quand nous nous mettons à disposition, en fait, Dieu ouvre des portes, Dieu nous guide. Et parfois par des moyens qu'on ne s'attend pas du tout.
Ça, c'est très juste. Pour ma part, moi, j'ai toujours cru que Dieu allait m'envoyer, m'appeler en tout cas à le servir en tant que pasteur ou missionnaire dans un coin hyper reculé de mon domicile. Je me voyais en Afrique, à vivre dans des huttes, à manger des insectes. Enfin, voilà, j'avais vraiment cette vision de vouloir servir le Seigneur, mais... probablement pas ici. Et puis Dieu m'a fait comprendre, et j'ai mis du temps, hein, qu'il m'attendait là, dans ma région d'origine, que mon ministère de service serait ici et pas le pastorat en plus. Simplement, là où j'étais, je suis à ma place dans un ministère pour Dieu.
Et en ce qui concerne Noé, sa mission était humainement une folie. Quand on pense qu'il a dû construire une arche, pendant plusieurs décennies, dans l'attente d'un déluge, alors qu'il n'avait encore jamais plu sur la terre. On imagine comme les hommes de l'époque ont dû se moquer de lui, mais il est dit plusieurs fois dans la Bible que Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné.
Je trouve que c'est pas facile de faire ce que Noé a fait. Il est allé carrément à contre-courant, mais il faisait totalement confiance à Dieu. Pour moi, c'est un exemple de foi extraordinaire.
Et oui, en fait, Noé savait bien que quand Dieu dit quelque chose, il le fait, c'est sûr. Et cette fois, ce n'est certainement pas arrivé d'un coup au moment où Dieu l'a appelé.
Oui, c'est clair. Pour moi, comme dans toute relation, la confiance se bâtit avec le temps, avec les expériences.
C'est sûr. La Bible nous dit qu'il marchait avec Dieu. Je l'imagine marcher avec Dieu comme on marche avec un ami avec qui on peut tout raconter. C'est cette relation qu'il a préparée à faire confiance à Dieu, même quand il l'a appelé pour cette mission impossible. Pour finir, j'aimerais vous laisser avec une citation qui m'est restée d'un message de Bruno Picard, qui a pour titre « Dieu vous a choisi pour une mission ». Donc je vous invite aussi à l'écouter quand vous aurez un moment, parce que c'est vraiment en lien avec notre thème. Il citait lui-même quelqu'un en disant « Quand un homme est intime avec une femme, ils ont un bébé. Eh bien, quand on est intime avec Dieu, la vie de Dieu en nous déborde, elle se multiplie. Et justement, Marina va nous parler d'une image qui illustre bien cette idée dans la nature.
Ouais, c'est exact, Juliana. Et d'ailleurs, j'aime trop ce culte espoir. Depuis le début, on a parlé de nourriture physique, spirituelle, du lien entre ces deux aspects. Et dans cette chronique métaphore de la nature, j'aimerais vous partager une découverte faite pendant mes vacances. J'ai visité sur l'île de Noirmoutier en France les marais salants, une région où les gens cultivent le sel. Et c'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et c'est assez passionnant de voir comment le sel, situé dans des œillets, comme des carrés bien définis par de la terre d'argile, comment il est extrait par des sauniers, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui cultivent le sel. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a plusieurs sortes de sel, hein, le sel de cuisine, le gros sel hein, qu'on connaît assez bien. Et puis il y a un tout autre sel, la fleur de sel, qui se récolte avec un processus très très différent finalement du gros sel, et pas tous les jours, ça dépend notamment de la météo. Et cette fleur de sel a une grande puissance pour relever les plats. Mais attention, pas trop, nous l'avons vu ensemble tout à l'heure. Et durant cette visite d'un marais salant, le jeune saunier nous a montré une petite plante qui ressemble à un haricot quand on cueille un peu ses petites tiges. On l'appelle d'ailleurs le haricot de mer ou le cornichon de mer, mais son nom le plus connu, c'est la salicorne. C'est une algue sauvage, de couleur verte dans sa belle saison, qui rougit en automne et à ce moment-là, elle ne se mange plus. La salicorne est composée à plus de 90%, 90% d'eau. Elle contient donc de l'eau, du sel, des oligo-éléments, des vitamines, bref, elle est très bonne pour la santé. Elle se mange bien verte, crue, en salade, confite au vinaigre, un peu comme les cornichons. Hein. Elle peut aussi se cuisiner comme des haricots verts, mais il faudra le faire rapidement et à la condition de dessaler un petit peu. Dans cette consommation, justement, attention à son sel. On consommera maximum 150 g de salicorne par jour, hein, pour qu'on n'ait pas mis de sel dans d'autres repas de la journée, parce que c'est l'apport journalier maximum de sel recommandé, hein, soit 1,5 g. La salicorne naît sur un sol qui est riche en sel marin, donc on la trouve facilement dans les marais salants, hein, où elle pousse tout naturellement toute seule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle croît dans ce sel et qu'elle se multiplie à une vitesse fulgurante, de sorte que les sauniers doivent très très régulièrement enlever les salicornes de leur marais s'ils veulent continuer à cultiver du sel et non pas des salicornes. Ça me fait penser à notre histoire de sel de la terre. Ici, dans les marais, dans un lieu qui est la source du sel, il y a une algue qui naît, cette salicorne. Elle se développe, elle se multiplie à proximité de cette source de sel. Et elle grandit. Elle se multiplie. Si je transpose cette image à ma vie, je comprends que ma proximité avec Dieu, source de sel, me permet d'être sel et par là, d'être un terrain propice pour que d'autres bénéficient de ce sel, la salicorne, ce qui m'entoure. Et ce terrain sur lequel ils sont leur permet eux aussi de se multiplier et à leur tour de porter du fruit et de transmettre ce sel. Parce qu'en effet, en automne, alors que je vous ai parlé de cette salicorne qui devient rouge, hein, et donc qu'on ne consomme plus, elle poursuit son travail. Ces petites fleurs qui étaient cachées dans les pliures se transforment en petites baies, si je peux appeler ça comme ça, ou des petites capsules. Et ces baies sont une excellente nourriture pour les oiseaux. Encore un passage de relais pour ce sel qui produit encore de l'effet pour ces oiseaux de mer. Voilà pour cette petite histoire. On n'imagine pas toujours combien notre relation avec Dieu peut faire naître des fruits insoupçonnés autour de nous.
On peut vraiment tirer des belles leçons à partir de la nature, c'est incroyable. Merci beaucoup Marina pour cette métaphore. Tout ce qu'on partage aujourd'hui, ça me donne vraiment envie de parler avec Dieu, de tout remettre entre ses mains. Voilà, je vous invite à vous joindre à moi si vous le souhaitez. Mon Dieu, je me rends compte de mes imperfections, de mes silences face à la souffrance, de mon inaction. Et cela brise mon cœur, mais je sais que tu ne m'as pas laissé ces promesses pour que je culpabilise, mais pour que je me mobilise. Alors me voici. Je viens vers toi pour te remettre tout ce que je suis afin que tu me transformes. Change mon cœur, change mes intentions, change mes pensées
car je veux vraiment te ressembler. Je te donne mes mains, mes lèvres, mes pieds, et je te donne mon temps, espérant qu'à travers ton influence, je puisse répandre le bien autour de moi et être le sel que tu veux que je sois. Amen.
Amen. Amen. Merci Romina pour cette prière humble et engageante à la fois. Eh bien, il n'y a plus qu'à passer à l'action maintenant. Alors, si on est très honnête, on sait tous que c'est justement là où ça coince. Parce que quand on entend ce type de message, on est regonflé à bloc, on est motivé. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus facile de rester bien au chaud dans notre zone de confort, dans ce que nous connaissons. Parce que aller là où Dieu nous appelle à aller, ben, c'est nouveau, c'est l'inconnu, c'est ce qu'on ne contrôle pas. Et je trouve dingue comme parfois, même si on veut que les choses changent, eh ben, on reste bien longtemps sans opérer le moindre changement parfois, parce que ça demande des efforts et ça fait peur, le changement. J'aime cette citation qui nous pousse à chercher à aller plus loin, à passer à l'action. « Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. » C'est encore plus parlant, je trouve, quand on pense qu'on est appelé à être sel de la terre. Est-ce que ce que l'on sème nous convient ? Ou est-ce qu'on trouve qu'il faudrait se bouger plus, pour semer mieux, semer autre chose ?
Je trouve que c'est important ce que tu dis, de se poser ce type de questions, parce que parfois on ne bouge pas simplement parce que nous n'y pensons plus. Alors ça vaut le coup de temps en temps faire un petit bilan personnel et intérieur et puis le remettre à Dieu.
Oui, oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question. Quelle est la nouvelle chose que Dieu vous appelle à faire ces derniers temps et que vous n'avez pas encore osé faire ou pris le temps de faire ? Commencez par une seule chose, aussi petite soit-elle, confiez-la à Dieu, puis faites-le. Comme le dit Wendy Blight dans un de ses messages, une prière, un pas d'obéissance, une personne à la fois. Parfois, on veut faire des choses grandioses, mais Dieu nous appelle à faire des choses simples chaque jour. Un service, un message d'encouragement, une discussion. C'est comme ça que Dieu nous appelle à être sel de la terre, un pas après l'autre.
Une prière, un pas d'obéissance, une personne à la fois. Merci Juliana pour cette invitation, cette petite piqûre de rappel qui m'aide à me mettre à l'action. Et ben voilà, nous voilà à la fin de notre programme. Merci Juliana, merci Marina, merci Romina pour ce temps de partage. Soyez toutes les trois vraiment bénies. Puissez être accompagnées cette nouvelle semaine qui arrive. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, de nous avoir suivis. Sois également abondamment bénie et protégée. Que nous puissions toutes et tous être celles. Que nous puissions laisser Dieu nous utiliser pour donner une belle et douce saveur à notre vie et à celle des autres. Allez, à la semaine prochaine, bye bye.
Ciao.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.